Tableau 4. Galilée a quitté la République de Venise pour la cour de Florence. Ses découvertes dues à la lunette se heurtent à l'incrédulité des milieux scientifiques florentins. Le passé dit, je suis ce que toujours j'étais, la nouveauté, si tu ne vaux rien, disparaît. La maison de Galilée à Florence, dans son cabinet de travail, Galilée reçoit des invités.
Plairait-il à ces messieurs de commencer par une observation des satellites de Jupiter, les constellations médicéennes?
Je vous prie de prendre place.
Merci, mon enfant. Je crains que tout ne soit pas tout à fait aussi simple. Monsieur Galilée, avant que nous nous penchions sur votre célèbre tube, nous aimerions vous inviter pour le plaisir à une discussion. Thème, de telles planètes peuvent-elles exister?
Une discussion dans les règles.
Oh, je m'étais dit que vous alliez simplement regarder à travers la lunette et vous convaincre vous-même.
Ici, je vous prie.
Certes. Naturellement, vous n'ignorez pas que selon l'avis des anciens, des étoiles qui tourneraient autour d'un autre centre que la Terre ne sont pas concevables. Surtout de ces étoiles qui n'ont pas de support dans le ciel.
Oui.
Et abstraction faite de la possibilité de l'existence de telles étoiles, que le mathématicien semble mettre en doute, je voudrais, en toute modestie, en ma qualité de philosophe, soulever la question de telles étoiles sont-elles nécessaires? Aristotélis divini universum.
Ne devrions-nous pas continuer dans le langage de la conversation? Mon collègue, Monsieur Federzoni, ne comprend pas le latin.
Importe-t-il qu'ils nous comprennent?
Oui.
Excusez-moi, je croyais que c'était votre polisseur de lentilles.
Monsieur Federzoni est un polisseur de lentilles et un savant.
Merci, mon enfant. Si Monsieur Federzoni tient.
Moi, j'y tiens.
L'argumentation y perdra en éclat. Mais vous êtes chez vous. Le monde tel qu'il est décrit par le divin Aristote, avec le mystique concert de ses sphères et de ses voûtes de cristal, et le mouvement circulaire de ses corps célestes, et l'inclinaison de l'orbite solaire, et le secret des tables des satellites, et la profusion d'étoiles du catalogue de l'hémisphère austral, et la radieuse construction du globe uranien, est un édifice d'une telle ordonnance et d'une telle beauté que nous devrions sans doute hésiter à troubler cette harmonie.
Et si à travers cette lunette, votre Altesse apercevait maintenant ces étoiles aussi inconcevables qu'inutiles?
On serait tenté de répondre que votre tube, montrant quelque chose qui ne peut pas être, est un instrument peu digne de confiance, n'est-ce pas?
Qu'entendez-vous par là?
Il serait pourtant plus profitable, monsieur Galilée, que vous nous donniez les raisons qui vous amènent à supposer que, dans la plus haute sphère du ciel immuable, des astres flottant librement puissent se déplacer.
Des raisons, monsieur Galilée, des raisons.
Les raisons? Alors qu'un coup d'œil sur les astres mêmes et mes relevés font apparaître le phénomène? Monsieur, la discussion devient insipide.
Si l'on était sûr que vous ne vous échauffiez pas encore plus, on pourrait dire que ce qui est dans votre tube et ce qui est dans le ciel peuvent être deux choses différentes.
On ne saurait s'exprimer avec plus de courtoisie.
Il pense que nous avons peint les étoiles médicènes sur la lentille.
M'accusez-vous de fraude?
Comment le pourrions-nous en présence de son Altesse?
Votre instrument, que l'on appelle votre enfant ou que l'on appelle votre pupille, est sûrement on ne peut plus habilement fait. Il n'y a pas de doute.
Et nous sommes absolument persuadés, monsieur Gallier, que ni vous, ni qui que ce soit n'oseriez embellir du nom illustre de la dynastie régnante des étoiles dont l'existence ne serait pas au-dessus de tout soupçon.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec mes étoiles?
Tout va très bien avec les étoiles de votre Altesse. Messieurs se demandent seulement si vraiment elles existent vraiment. On dit qu'à travers cet instrument, on peut voir toutes les roues du chariot.
Oui, et tout ce qui est possible du taureau.
Alors, ces messieurs vont-ils regarder, oui ou non?
Bien sûr, bien sûr.
Bien sûr.
Votre Altesse, messieurs? Puis-je rappeler que le bal de la cour commence dans 3 quarts d'heure?
Pourquoi toutes ces contorsions? Tôt ou tard, il faudra bien que Monsieur Galilée se familiarise avec la réalité. Ces satellites de Jupiter défonceraient l'enveloppe de la sphère. C'est tout simple.
Vous avez surpris, il n'y a pas d'enveloppe.
Mon brave, n'importe quel livre d'école vous apprendra qu'il y en a.
Alors, donnez-nous de nouveaux livres.
Votre Altesse, mon honorable collègue et moi, nous ne nous appuierons sur rien de moins que sur l'autorité du divin Aristote lui-même.
Messieurs, la croyance en l'autorité d'Aristote est une chose. Des faits que l'on peut toucher du doigt en sont une autre. Vous dites que, d'après Aristote, il y a là-haut des enveloppes de cristal et que par conséquent certains mouvements ne peuvent avoir lieu parce que les astres défonceraient les enveloppes. Mais si vous pouviez constater ces mouvements, peut-être cela vous montrerait-il que ces enveloppes de cristal n'existent absolument pas. Messieurs, je vous prie en toute humilité de vous fier à vos yeux.
Cher Galilée, si vieux jeu que cela puisse vous paraître, j'aime lire à l'occasion Aristote. Et là, je peux vous assurer que je me fie à mes yeux.
Je suis habituée à voir ces messieurs de toutes les facultés fermer les yeux devant tous les faits et faire comme si de rien n'était. Je montre mes relevés et l'on me sourit. Je mets la lunette à la disposition de chacun afin que l'on puisse se convaincre et l'on cite Aristote. Lui n'avait pas de lunettes.
Sans doute que non, sans doute que non.
Si l'on prétend traîner dans la boue Aristote, autorité qu'ont reconnue non seulement toute la science de l'Antiquité, mais encore les pères de l'Église eux-mêmes, il me semble oiseux, en tout cas, de poursuivre la discussion. Je refuse une discussion dont l'objectivité est absente. Basta.
La vérité est la fille du temps, et non de l'autorité. Notre ignorance est infinie. Entamons-la d'un millimètre cube. À quoi bon vouloir être si intelligent quand nous pouvons enfin être un tout petit peu moins bêtes. J'ai eu cette chance inconcevable de disposer d'un nouvel instrument avec lequel on peut examiner d'un peu plus près, pas de beaucoup, le petit bout de l'univers. Utilisez-le.
Votre Altesse, mesdames et messieurs, je me demande vraiment à quoi tout cela va nous mener.
Je dirais plutôt qu'en qualité de savant, nous n'avons pas à nous demander à quoi la vérité peut nous mener.
Monsieur Galilée, la vérité peut nous mener à toutes sortes de choses.
Votre Altesse, s'il lui cite d'un bout à l'autre de l'Italie, des planètes sont braquées vers le ciel. Les satellites de Jupiter ne réduisent pas le prix du lait. Et on ne les avait jamais vus. Et pourtant, ils existent. L'homme de la rue en tire la conclusion que bien des choses encore pourraient exister, si seulement il ouvrait les yeux. Vous lui devez une confirmation. Ce ne sont pas les mouvements de quelques astres lointains qui font dresser l'oreille à l'Italie. C'est la nouvelle que des théories, regardées comme inébranlables, se sont mises à vaciller. Et chacun sait qu'elles ne sont que trop nombreuses. Messieurs, ne prenons pas la défense de théories ébranlées.
Vous qui êtes professeur, vous devriez vous charger de cet ébranlement.
Je souhaiterais que votre acolyte se dispense de donner des conseils dans une discussion scientifique.
Votre Altesse, mon travail au Grand Arsenal de Venise m'a fait coudoyer chaque jour des dessinateurs, des gens du bâtiment, des fabricants d'instruments. Ces gens-là m'ont appris plus d'un chemin nouveau. Ils lettraient, ils se fient au témoignage de leur sens. Généralement, sans s'inquiéter de savoir où va les mener ce témoignage.
Oh, oh, oh.
Et tout comme on fait nos marins qui, il y a 100 ans, ont quitté nos rivages, sans savoir quels autres rivages ils atteindraient, si même ils en atteindraient. On dirait qu'aujourd'hui, pour trouver cette curiosité supérieure qui a fait la vraie gloire de l'ancienne Grèce, il fallait aller dans les chantiers de construction navale.
Après tout ce que nous avons entendu ici, je ne doute plus un instant que M. Galilée ne trouve des admirateurs dans les chantiers de construction navale.
Votre Altesse, à ma confusion, je constate que cette conversation éminemment instructive s'est quelque peu prolongée. Il faut encore que son Altesse prenne un peu de repos avant le bal.
Attendez, un craquelin, votre Altesse?
Mais ces messieurs en auraient vraiment eu, qui regardaient à travers cet instrument.
Pour ce qui est de vos affirmations, son Altesse ne manquera pas d'aller prendre la vie de notre plus grand astronome vivant, le père Christophe Clavius, premier astronome du Collège Pontifical de Rome.